Voilà. L'Esprit Saint, le Père et le Fils et le Saint-Esprit.
Amen. Amen.
Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens, Esprit consolateur, remplis-nous de joie et d'allégresse. Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, avant de commencer, beaucoup ont appris la nouvelle du décès de mon père. Alors merci pour vos témoignages d'amitié. Je suis très touché par tous ces marguerités, mais je pense que chacun d'entre nous, au moins les plus âgés, on a tous connu ce moment douloureux. C'est un passage, voilà. Et voilà, donc en y pensant, je pense aussi aux uns et aux autres. Donc voilà, tous ces êtres unis dans la prière. Et puis il faut reconnaître aussi que le perdre pendant l'octave pascale, il était soutenu par les sacrements, et vu toute la famille, donc c'est quand même un soutien. En tout cas, ce que j'en retire, c'est que tout le monde ne part pas pendant l'octave pascale, donc je me dis c'est une grâce et on la reçoit, mais tout le monde peut recevoir les sacrements, et à travers les sacrements, on a la grâce pascale, et je recommande au maximum aux uns et aux autres de faire appel aux prêtres. Il ne faut pas hésiter à nous déranger pour accompagner les personnes qui sont à l'hôpital, on est là pour ça, et je pense qu'il peut y avoir un réconfort. Voilà. Réconfort de la prière des uns et des autres, réconfort des sacrements. Donc, moi, ça m'a renouvelé, hier, que dans ma mission de prêtre, de me dire, on est vraiment là au service des gens, mais bien sûr des familles qui sont dans la douleur, et puis des personnes qui sont agonisantes. Voilà. Mais en tout cas, merci pour les témoignages de prière et d'amitié des uns et des autres. Voilà. Pour tout vous dire, la nouvelle s'est répandue à la paroisse Sainte-Anne et j'ai pas fait d'annonce. Mes confrères prêtres me disaient parle-en aux paroissiens. Je dis que ça me concerne moi. Et en fait, je vois que les uns et les autres sont. Voilà. Justement, question la passion de Jésus. Pourquoi parlons-nous de la passion de Jésus maintenant alors qu'on est dans l'octave de Pâques? C'est parce qu'on suit l'Évangile, que les récits de la résurrection sont assez courts, donc obligatoirement ça arrive à la fin de l'année, et donc le calendrier fait qu'on parle de la passion de Jésus alors que nous sommes dans le temps pascal. Eh bien voyez-vous, c'est très providentiel, c'est très bien comme ça, parce que finalement, les textes qui concernent la passion, même la mort de Jésus, ont été écrits dans la lumière de Pâques, dans l'Esprit Saint. On n'aurait jamais raconté la passion de Jésus s'il n'y avait pas eu la résurrection. Simplement parce que, ça aurait été une autre histoire. Ça n'aurait pas été l'histoire de Jésus. En guise d'introduction, il faut quand même réfléchir. Même le mystère de la croix, les enfants demandaient pourquoi la croix est voilée à partir du cinquième dimanche de Pâques. J'ai dit, mais parce que la croix, c'est paradoxalement un signe de la résurrection. Si, alors on peut dire le trône de gloire, les étendards du roi, etc. Si Jésus n'était pas ressuscité, la croix resterait quelque chose d'absolument ignoble. Quelqu'un suspendu à une croix, c'est en tant que tel quelque chose d'ignoble. Donc vous voyez, on n'y pense pas, on dit la croix, c'est quelqu'un qui est crucifié, mais qui est ressuscité, et donc la croix devient un signe d'espérance et de victoire. Mais c'est la croix de quelqu'un qui est ressuscité. Ça, c'est très important de le comprendre. On ne peut pas représenter un supplicié, c'est insupportable. La mort n'est pas belle à voir. Tout, la souffrance n'est pas belle à voir. Donc sur la croix, Jésus ne nous montre pas simplement sa souffrance, il montre sa souffrance assumée par son amour pour le Père, par la puissance de la vie. Voilà. Donc on le voit très très fort chez Saint Jean. Dans les synoptiques, il y a le temps de la souffrance, on le voit chez Saint Marc, et après il y a la résurrection. Voilà. Mais n'empêche que les évangélistes ont raconté les choses quand même en sachant que Jésus était ressuscité. Chez Saint Jean, les deux vont ensemble depuis le début. Quand il parle de la crucifixion, il parle de sa glorification. C'est assez choquant. Ce n'est pas une glorification, quelqu'un qui est tendu sur la croix. Mais Jésus sait que c'est là qu'il accomplira l'œuvre du Père. Et donc, il y a les deux qui se rejoignent. Et on va le voir, là, dans le récit de la Passion, une tonalité johannique. Ce n'est pas tout à fait comme les autres. Et c'est ça que je voudrais vous montrer. Voilà. Alors, nous nous intéresserons bien sûr à quelques moments phares, on ne peut pas tout regarder. Avec cette manière propre à Saint Jean de garder des thèmes qui reviennent de façon assez récurrente, eh bien, nous avons comme une récapitulation des thèmes essentiels du quatrième évangile. Il y aura d'abord un mot sur les événements, l'ordre des événements, puisque je ne vais pas les analyser, on va avoir quand même un tableau d'ensemble. Ensuite, je vais m'arrêter sur la figure de Jésus selon saint Jean, parce que c'est peut-être ce qu'il y a de plus marquant. Ensuite, le moment très précis de la condamnation à mort, puisque finalement, quelle est la raison objective, historique, pour laquelle Jésus a été tué ? Jésus est entré dans une histoire, et saint Jean, le théologien, n'est pas moins historien. Et je m'arrêterai beaucoup plus longuement sur Jésus sur la croix, parce que comme je vous l'ai dit, chez saint Jean, le récit historique, événementiel, s'accompagne d'une vraie méditation théologique. La glorification, voire la gloire en quelqu'un qui est crucifié, c'est vraiment un regard de foi. Et c'est ça que saint Jean fait, que nous regarderons tout à l'heure. Alors les événements. Quatrième évangile, donc, suit le même ordre des événements que les synoptiques. Tout d'abord, vous le connaissez par cœur, après le repas avec les disciples et le départ de Judas, Jésus va au-delà du Cédron, dans un jardin. Jean parle d'un jardin. Il ne dit pas que c'est Gethsémani. Et comme chez saint Jean, les mots ont un sens très très fort, libre à chacun de voir, non pas un jardin, mais le jardin. Vous savez que Pardès, en hébreu, qui a donné paradis, en fait c'est un mot perse, c'est un mot perse, c'est les Perses qui sont les spécialistes des beaux jardins, paradis d'Adam et Ève, l'arbre, les pères de l'Église développeront beaucoup ça, l'arbre par où est venue la tentation et la mort, eh bien au milieu du jardin, il y aura cette trahison de Jésus, mais aussi le jardin de la crucifixion et de la résurrection. Voilà, ça c'est voilà, un jardin. C'est intéressant de regarder le vocabulaire. Voilà. Jésus est arrêté par les gardes, conduit par Judas, le traître. Ça c'est commun à Jean et aux synoptiques. Ensuite, il est conduit chez Anne et Caïphe. Anne, le grand prêtre, faut faire attention, ce n'est pas, pas un nom féminin. Hanan, pour un pseudo-procès. En fait, il n'y a jamais de procès dans la nuit. Je ne sais pas si ça vaut en droit encore aujourd'hui, j'imagine que oui, s'il y a des juristes parmi nous, mais en tout cas dans l'Antiquité, il n'y avait pas de procès dans la nuit, parce qu'il fallait que des témoins puissent se produire. Voilà, et il y a quand même ce pseudo-procès en pleine nuit, donc parfaitement illégal. Voilà, et au même moment, Pierre dans la cour qui renie Jésus à trois reprises jusqu'au champ du coq. Alors, on retrouve le même ordre. Dès le matin, Jésus est conduit chez Pilate, donc cette fois-ci pour le procès officiel. Pilate qui laisse Jésus au chef juif pour qu'il soit crucifié. Parce que c'est les Romains qui ont le pouvoir de condamner à mort. Le portement de croix, qui est brièvement évoqué. La crucifixion au Golgotha, le partage des vêtements. Et après la mort, l'ensevelissement par les soins de Joseph et de Nicodème. Il y a des différences notables. J'en retiens trois principalement. Tout d'abord, Jésus ne fait qu'évoquer brièvement la prière de Jésus dans le jardin. Vous vous souvenez le passage de Gethsémani, Jésus qui prie son Père, éloigne de moi cette coupe, Père, puis c'est cette prière qui se traduit par ses larmes, enfin, c'est cette sueur de sang. Voilà, non pas ma volonté mais la tienne. Voilà, ça c'est absent de chez saint Jean. Chez saint Jean, les événements vont se précipiter beaucoup plus, mais on a déjà les éléments de l'agonie à Gethsémani. Chez saint Jean, on les a un peu avant. Où, par exemple, le chapitre 12, verset 27, on parle déjà d'une petite, la pré-agonie de Jésus, quand Jésus dit « mon âme est troublée ». Hein, étaracté, je crois en grec, donc quelque chose de très profond, comme ce sera le cas à Gethsémani. Ben, il y a d'autres passages que j'ai mentionnés. Voilà. Un autre aspect qui est propre à la prière de Jésus à Gethsémani dans les synoptiques, c'est ce consentement à la volonté du Père. Alors ça, on l'a très souvent dans l'Évangile. Hein, je suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est une thématique centrale chez saint Jean. Deuxième différence, le procès devant le grand prêtre est beaucoup plus court en Jean, alors que Pilate, ça va être très développé. En fait, chez saint Jean, ce procès avec le grand prêtre, avec les grands prêtres, court pendant tout le ministère, surtout la grande scène des chapitres 7 à 8, sur laquelle je ne me suis pas arrêté, parce que je vous avais dit que je prenais plutôt des passages narratifs. Hein, 7 à 8, c'est pas très narratif, c'est un dialogue très dur où les grands prêtres manifestent, les prêtres manifestent leur endurcissement. On peut dire que c'est déjà une scène de procès, d'autant plus qu'elle s'accompagne d'une volonté de tuer Jésus, hein, 8, 59, mais la volonté claire de tuer Jésus, on peut dire la condamnation à mort, c'est déjà en 11, 53, hein, donc avant les récits de la Passion. Et enfin, troisième grosse différence, pendant la crucifixion, il n'y a pas chez saint Jean les moqueries auxquelles font référence les autres évangélistes. Jean, par ailleurs, va développer le thème du partage des vêtements et il est le seul à signaler la présence de Marie et de Jean tout près de la croix et à rapporter les paroles que Jésus leur adresse. Chaque évangéliste a des caractéristiques. Chez saint Marc, il y a ce côté assez sombre, assez douloureux de... puis très narratif, avec beaucoup de détails, hein, de ce qui va se passer sur la croix. Chez saint Luc, il y a tout l'aspect de la miséricorde, mais c'est aussi le même type de récit assez concret, assez narratif, avec des événements, très tristes. Et puis chez saint Matthieu, toujours cette même tristesse, mais avec ce côté apocalyptique, une certaine majesté de Jésus. Chez saint Jean, on a l'impression que les choses sont beaucoup plus apaisées, hein, et Jean en arrive tout de suite à ses objectifs théologiques qu'il va fortement souligner. Il s'arrête moins sur des détails narratifs. Alors, maintenant, quelques remarques sur la figure de Jésus. Alors, vous voyez, la figure de Jésus, c'est quels sont les traits de Jésus, quelles sont ses caractéristiques, quelle est sa personnalité, telle que saint Jean la présente. Les synoptiques, comme je vous l'ai dit, peignent une fresque narrative assez vivante, une vaste fresque narrative. Saint Jean, lui, va concentrer son récit sur la personne de Jésus. Un petit détail, on ne voit pas les foules ni sur le trajet, ni autour de la croix. Vous vous souvenez, hein, quand on nous dit il y avait des femmes qui se frappaient la poitrine, hein, il y avait des juifs qui passaient en disant, en se moquant de Jésus, il y avait les soldats qui l'interpellaient. Tout ça, on ne l'a pas chez saint Jean. On a l'impression que la figure de Jésus se détache de façon assez forte. Alors, des points que je relève les uns après les autres, mais qui en fait sont tous vraiment convergents, qui nous disent finalement d'une certaine manière la même chose. Premièrement, la liberté de Jésus. Jésus avait annoncé qu'il donnerait sa vie librement. Au chapitre 10, je vous ai dit, les événements de la Passion sont déjà largement annoncés à l'avance. Jésus, au chapitre 10, dans le discours du bon pasteur, vous savez, le pasteur donne sa vie pour ses brebis, et il insistait sur ce don de lui-même. J'en avais parlé la dernière fois, vous vous souvenez, Jésus qui dépose son vêtement, ma vie, je la dépose. Eh bien, c'est ça. Ma vie, personne ne me la prend. J'ai le pouvoir de la déposer, le pouvoir de la donner, et le pouvoir de la reprendre. J'avais abordé ce thème-là la dernière fois. Cette liberté de Jésus au moment de sa passion, eh bien, nous la voyons s'exercer tout au long du récit de la passion. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Voilà. Cette liberté, on va le voir à travers mille détails, et je n'en relève que quelques-uns, on pourrait en relever d'autres. Il prend l'initiative d'interpeller ceux qui viennent l'arrêter. Qui cherchez-vous? Vous imaginez des gens qui viennent chercher, je ne sais pas, un brigand, un voleur, ils se disent, on va lui faire peur, on va arriver en masse, etc. Ils arrivent en masse. Et celui qui vient chercher, qui cherchez-vous? C'est eux qui...
Ils tombent.
Alors, ils vont tomber, ça, je vais revenir dessus tout à l'heure. Mais tout à fait. Ah, donc, déjà, Jésus prend cette initiative. Face au grand prêtre, hein, quand il dit au grand prêtre, c'est au grand jour que j'ai parlé. Je n'ai rien à cacher. Donc, il n'est pas dans la position de celui qui est mal en point. Parce que on va essayer de le piéger. J'ai parlé au grand jour. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Voilà. Hein. Il a cette espèce d'audace, presque d'impertinence, de dire à Pilate qu'il n'aurait aucun pouvoir si cela lui avait été donné d'en haut. Tu n'aurais aucun pouvoir. En gros, remets-toi à ta place. Voilà. Imaginez Pilate qui ne comprend pas forcément ce que Jésus lui dit, mais voilà. Liberté de Jésus. Ceux qui ont suivi le cours sur Saint Matthieu, souviens, j'avais parlé de sa majesté. Il y a quelque chose de ça chez Saint Jean. Hein. Et puis, un détail important aussi, les autres synoptiques disent que Jésus porte la croix et que c'est Simon de Cyrène, finalement, à qui on va la confier. Alors, on ne sait pas trop si c'est Jésus avec Simon ou Simon tout seul. Chez Saint Jean, c'est Jésus se saisit de sa croix. Donc, on le voit de lui-même aller prendre l'instrument de sa passion. Deuxième point, on voit Jésus, alors on vient déjà de le mentionner un peu, on le voit inverser les rôles. Hein, on le voit inverser les rôles. Hein, on l'a vu déjà avec les gardes, c'est les gardes qui sont censés lui faire peur, c'est lui qui les interpelle. Hein. Quand il demande à ceux qui le jugent de lui répondre. Normalement, si je juge quelqu'un, celui que je juge, il va attendre que je l'interroge. Il y a un tribunal où le gars prend l'initiative. Mais Jésus, et puis en fait, ça va très bien dans le récit. On se dit, Jésus a raison de parler. Hein. Quand il s'adresse au grand prêtre en disant, pourquoi m'interroges-tu? Demandant au grand prêtre de rendre compte. Parce que, de fait, il y a quelque chose d'illégal dans ce que dit le grand prêtre. Donc la question de Jésus est tout à fait bienvenue. Ce n'est pas uniquement une impertinence de gars qui veut casser les pieds pour essayer de le détourner, mais une espèce de parole de vérité, comme un jugement. Tu m'interroges, mais pourquoi m'interroges-tu? Quelle est ton intention? Et le lecteur de l'évangile sait bien qu'il y a quelque chose qui, chez le grand prêtre, ne va pas. Autre exemple, hein, il y a un garde, hein, celui qui soufflette Jésus, je crois que c'est à ce moment-là, hein, si j'ai mal parlé, hein, témoigne de ce qui est mal. Voilà, si tu me gifles, pourquoi le fais-tu? Si j'ai mal parlé, témoigne. Vous voyez? Là aussi, il lui demande de rendre compte. Hein. Ou alors, vis-à-vis de Pilate, dis-tu cela de toi-même? Quelle est l'autorité de ce que tu dis? Ouais. Paradoxalement, face à ceux qui prétendent le juger, en fait, Jésus apparaît comme le véritable juge. Ouais, il a de bonnes raisons de le faire. Il ne le fait pas avec violence, mais il est dans la vérité. Quand on est dans la vérité, on n'a pas besoin d'utiliser la violence. La vérité donne une grande paix. Et cette liberté de Jésus manifeste sa paix. Mais il interpelle. Très, très important. Hein, le discours, le fameux discours du pape Benoît XVI à Ratisbonne, ça vous dit quelque chose? Ça vous dit quelque chose? C'était ça qu'il disait. Il disait, la vérité n'a pas besoin de la violence. Voilà. Ça a valu le beau déchaînement de violence qu'on connaît. En tant que tel, était... Voilà. Mais... Voilà, la vérité n'a pas besoin de la violence. Petite parenthèse, vous êtes habitués maintenant, vous savez que j'aime les parenthèses. Le film Carole, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu, je crois que c'est dans le film Carole, où on voit le jeune Karol Wojtyla, quand il était professeur, Jean-Paul II, Karol Wojtyla, quand il était professeur de philosophie à Lublin, à l'université de Lublin, il y a les soviétiques, les communistes qui arrivent pour, je sais pas quoi, pour interdire les cours, etc., avec des armes, etc. Et les étudiants disent, cette fois-ci, il faut prendre les armes, il faut lutter, etc. Et Wojtyla dit, c'est exactement ce qu'ils veulent. C'est que vous restiez dans leur logique. Ici, on est là au service de la vérité. Et la vérité leur fait peur. Alors, ne prenez pas les armes. Continuez de travailler, de chercher la vérité. Voilà. Il a tenu bon comme ça. Le refus de... Voilà, la force de la vérité. Et Jésus est vraiment dans ce témoignage extraordinaire. Il le dira, je suis venu rendre témoignage à la vérité. Il n'y a pas besoin d'être violent. Voilà. Alors, il y a un jugement. Hein, Jésus l'avait annoncé au chapitre 12. Hein, c'est maintenant le jugement de ce monde. Hein, juste avant d'entrer dans la passion. C'est maintenant le jugement. Et quel est ce jugement? C'est que le monde a préféré les ténèbres à la lumière. mais celui qui fait la vérité vient à la lumière. C'est ça le jugement. Donc est-ce que tu cherches la vérité? Est-ce que tu vas vers la lumière? Ou est-ce que tu préfères les œuvres des ténèbres? Et là, évidemment, face à la vérité, ben, le jugement, il est là. Jésus, c'est vrai, sur cette question du jugement, disait bien au chapitre 3, « Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé, au sens de juger, au sens de condamner. Hein, je ne suis pas venu pour dire au monde, ben, ça y est, t'es perdu. Il est venu pour sauver le monde. Mais il n'empêche que Jésus exerce un jugement. Il est bien le juge eschatologique, ce que saint Matthieu va bien montrer. Hein, la scène de Matthieu 25. Voilà. C'est pour un jugement que je suis venu dans le monde, pour un discernement. Krima, en grec. Krima, krinein, juger. Hein, une remise en cause, une remise en question, un discernement, un jugement. Il y a plusieurs traductions qui sont toutes assez équivalentes. Je suis venu pour un jugement, pour que ceux qui croient qu'ils voient ne voient plus, et que ceux qui savent qu'ils ne voient pas se laissent illuminer, accueillent cette guérison. Voilà. Et Jésus expliquait également à Nicodème, toujours au chapitre 3, celui qui croit, celui qui ne croit pas est déjà jugé, mais celui qui croit n'est pas jugé. Celui qui croit, il est déjà ouvert à la lumière. On a l'équivalent dans la première lettre de Jean, le même auteur, mais sur le thème de la charité, celui qui aime échappe au jugement. Vous connaissez ce passage, ça rendait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus pleine de confiance, parce que elle disait « je n'ai rien à craindre dès lors que je suis dans l'amour ». Évidemment, si je ne suis pas dans l'amour, je ne peux être que dans la crainte, puisque c'est l'amour qui me jugera. Si je suis dans l'amour, ben, j'ai pas à avoir peur de ce qui me jugera. Voilà. Hein, comme disait je ne sais pas quel saint, comment avoir peur d'un Dieu qui s'est fait si proche de moi, si petit, pour venir me juger? Mais pour le comprendre, il faut être dans l'amour et dans l'humilité. Voilà, c'est vraiment la logique de Jésus. Hein, ce jugement, mais c'est un jugement qui est redoutable. Redoutable, parce qu'il démasque notre mensonge. Et c'est ce qui se passe dans ce récit. Troisième exemple ou illustration de cette figure de Jésus, quand les soldats venus l'arrêter à Gethsémani l'interrogent, il répond par deux fois, c'est moi. Hein, qui cherches-tu? Qui cherchez-vous? Jésus Nazareth, c'est moi. Shtak! Le fait qu'il se casse la figure. Hein, ego eimi. C'est le même ego. Alors, les hellénistes parmi vous ont bien reconnu le ego eimi, c'est-à-dire je suis. Ego, moi, eimi, suis. Je suis. C'est la révélation du buisson ardent. Je suis celui qui suis. Ego eimi. O on. Soldat qui tombe à la renverse devant quelque chose de trop grand à comprendre. C'est intéressant. Petite parenthèse, une interprétation, mais Adam, quand il a péché dans le jardin, Dieu lui pose la question. Adam, où es-tu? Tu n'es pas là où je t'ai mis. Tu n'es pas dans ton être, tu n'es pas dans ton humanité, tu n'es pas dans la confiance, tu n'es pas dans la relation filiale, tu te caches. Je me suis caché parce que j'avais peur, parce que j'étais nu, j'étais dépouillé, j'étais que face à moi-même. Voilà. Jésus, en s'approche de lui, il ne s'est pas caché, il ne se cache pas. Nous cherchons Jésus Nazareth, c'est moi. Il n'est pas derrière le buisson. C'est très très important, cette espèce de d'anti-péché originel. Jésus, voilà, il est debout, c'est moi. Rien à cacher. Voilà. Voilà. Il y a une révélation sur la personne. Vous voyez, il faut faire attention, ce serait trop rapide de dire c'est moi, donc, c'est Dieu. Alors, de fait, nous le croyons. Le récit est plus subtil que ça. Il y a quelque chose qui se réfère à la révélation de Dieu, mais le but de Jean, ce n'est pas de nous dire simplement ça y est, c'est Dieu comme ça. Et c'est à travers cela que nous comprenons que c'est Dieu. Voilà. Et puis, c'est aussi cette opposition entre l'agir de Dieu et l'agir de l'homme. Dieu qui dit « je suis », qui se donne, le don de soi, là où Adam et l'humanité se cachent, divisés avec elles-mêmes. Quatrième point, la liberté de Jésus jusque dans sa passivité. Alors ça, c'est très important, parce que là, c'est la passion. La passion, c'est Jésus qui se laisse conduire. en se laissant ligoter les mains par les gardes, hein, et comme le fut Isaac par son père Abraham en vue du sacrifice, ça vous dit quelque chose, hein, Isaac est ligoté, donc les Juifs appellent ça l'Akeda, hein, d'Isaac. Saint Jean donne ce petit détail, hein, et Jésus est ligoté, hein, comme l'a été Isaac, donc référence à Isaac, hein, comme l'est l'agneau pour le sacrifice. Qu'est-ce que Abraham fait à travers ce sacrifice? Il fait la volonté du Père, et c'est ça que Jésus veut faire. Donc cette passivité, c'est Jésus en fait qui fait la volonté du Père. Alors ce thème de l'agneau que j'ai déjà évoqué, donc je ne reviens pas dessus, pas mal d'éléments qui montrent que Jésus est vraiment l'agneau pascal. Il y avait cette question dans le récit de Genèse 22, hein, où est l'agneau pour le sacrifice? Question. Abraham a eu cette réponse magnifique, Dieu donnera l'agneau, Dieu pourvoira. Voilà, ça y est, Dieu a pourvu. Hein, c'est Jésus, l'agneau de Dieu. Hein, cet agneau qui est ligoté, le fils bien-aimé. Hein, prends ton fils, ton bien-aimé, Isaac, hein, et offre-le en sacrifice. Voilà, et Jésus est ce fils bien-aimé, le fils unique, comme cela apparaît chez saint Jean, hein, comme dans Genèse 22. Voilà, celui que Dieu a donné pour le véritable sacrifice. Jésus donc avance librement jusque dans sa mort, hein, et au moment où il va expirer, Jean rappelle solennellement, comme il avait déjà fait en 13.1, que Jésus entre consciemment et librement dans la mort, ce qui va être absolument fondamental d'un point de vue théologique. Hein, là, ce qui nous sauve, ce n'est pas la souffrance de Jésus, c'est la liberté dans laquelle Jésus donne sa vie. L'amour dans lequel il se donne à son Père. Jésus entre consciemment et librement dans sa mort. Après quoi, sachant que désormais tout était achevé pour que l'Écriture fût parfaitement accomplie, etc. Vous vous souvenez au début du chapitre 13, le grand récit sur la Passion, hein, au moment de passer de ce monde à son Père, Jésus, sachant que son Père lui avait tout remis, etc. D'ailleurs, à deux reprises, il y avait sachant que, donc conscience de Jésus, on le retrouve juste au moment de la mort, Jésus sachant que désormais tout était achevé. Donc jusqu'au bout, Jésus est libre, et l'amour est libre. Troisième chapitre, la condamnation à mort. Avec deux volets, d'abord les grands prêtres et ensuite le prétoire chez Pilate. Tout d'abord les grands prêtres, ils veulent se débarrasser de Jésus parce que, disent-ils, il y a intérêt à ce qu'un seul homme meure pour le peuple. Jean rappelle cette remarque que Caïphe avait faite. J'ai fait une erreur. Voilà, arrive toujours, il en faut toujours une. En fait, c'est Caïphe et les grands prêtres. J'avais dû marquer les grands prêtres, puis les retirer. Après la résurrection de Lazare, hein, il y a intérêt à ce qu'un seul homme meure pour le peuple. C'était la réflexion qui avait été faite après la résurrection de Lazare, et que les grands prêtres vont rappeler à ce moment-là. Et l'évangéliste avait commenté, c'était intéressant, « Cela, il ne le dit pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation, et non pas pour la nation seulement, mais encore afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. » Voilà. De leur côté, le procès est déjà plié. S'ils vont chez Pilate, c'est parce que les Juifs n'avaient pas le droit de mettre à mort qui que ce soit. Les Romains avaient retiré ce droit aux Juifs de condamner quelqu'un à mort. Seuls les Romains avaient ce qu'on appelle le jus gladii, le droit du glaive. Et bon, bah, les Juifs, surtout les grands prêtres qui étaient soumis au pouvoir romain, les Juifs le savaient. D'ailleurs, les grands prêtres eux-mêmes diront à Pilate qu'ils ont déjà fait leur choix, qu'ils ont déjà prononcé leur jugement. Ils méritent la mort. Alors justement, Jésus est conduit au prétoire, ça s'appelle le prétoire, c'est le lieu où le prêteur, voilà, c'était la résidence du gouverneur quand il venait à Jérusalem. Alors il y a deux lieux, je l'ai marqué, si on aime la Terre Sainte, si on aime les lieux, on sait qu'il y a deux lieux traditionnels, il y a l'Ecce Homo qui se retrouve au nord du temple où il y avait une ancienne forteresse, l'Antonia. C'est là que commence le chemin de croix. Certains étaient en Terre Sainte, on y était ensemble l'été dernier, d'autres on y était un peu plus longtemps. Vous vous souvenez de l'Ecce Homo, à l'endroit où part le chemin de croix. Et puis, c'est amusant parce que quand je vous vois, je me dis, il y a plusieurs générations de Terre Sainte, plusieurs pèlerinages. Et puis, l'autre option, c'est la tour de David. Est-ce que ceux qui sont allés en Terre Sainte se souviennent de la tour de David? La porte de Jaffa. La porte de Jaffa. Hein, voilà. Là où il y a l'entrée de la ville, là où on prend les bus et tout. Alors, bon, il y a deux options. Moi, je pense plutôt pour la citadelle, la porte de Jaffa, qui était le palais d'Hérode. Parce que c'est un peu à la frontière de la ville. Et en fait, Pilate était terrorisé à l'idée de se retrouver au milieu de la population juive. Voilà. Comme les grands prêtres ne peuvent pas mettre Jésus à mort, donc ils cherchent à se décharger sur Pilate. Mais Pilate, qui a d'autres chats à fouetter, n'a aucunement l'intention d'accéder à leur demande. Pilate, comme je vous l'ai dit, était connu pour être un pleutre, quelqu'un d'assez violent. Il avait peur devant la population juive, devant la populace. Il vivait à Césarée. Il ne venait à Jérusalem que pour les grandes fêtes, quand la population multipliait par 3 ou 4, hein, ou qu'il y avait des problèmes de service d'ordre assez considérables, et surtout la peur d'un soulèvement populaire. Donc il était terrorisé par cela. Et il ne voulait surtout pas entrer dans un processus qui pouvait le conduire très loin. S'il acceptait la demande des grands prêtres de mettre Jésus à mort, ça pouvait se retourner contre lui à Rome. Parce que ça pouvait entraîner un mouvement populaire, quelque chose de très... Voilà. Et puis, de toute façon, il ne prend pas vraiment au sérieux le cas qui lui est présenté. On lui présente Jésus. Et Jésus n'a pas une tête de brigand des grands chemins qui fait peur. Donc les grands prêtres essayent, comme ils voient que ça ne marche pas, ils essayent de compromettre Jésus. Et puisqu'ils voient que Pilate ne les prend pas au sérieux, eh bien ils vont faire appel à un motif, à une accusation devant laquelle Pilate ne pourra pas se dérober, celle de la calomnia. Ce qu'on appelait la calomnia en latin, c'est une attaque contre l'empereur, une révolte, un chef d'accusation qui conduisait à la mort immédiate. Les Romains, contrairement à ce qu'on nous montre dans les films, n'étaient pas des gens violents. C'est ce qui leur a permis d'avoir un empire si grand et si durable. C'était des gens qui étaient plutôt pacifiques, mais quand les droits de l'empereur étaient en cause, alors là, ça devenait beaucoup plus violent. Voilà. Et on ne touchait pas à cela. Les grands prêtres prétendent que Jésus a voulu se faire roi. Il est donc rebelle à l'empereur. Même si les prétentions de Jésus sont dérisoires, elles sont un crime. Tolérer de telles prétentions, ce serait montrer peu de zèle pour les intérêts de César. Et même une négligence, dans un cas pas trop grave, une négligence pareille peut conduire très très loin. Nous en avons l'attestation chez l'historien Suétone, la vie des 12 Césars. Voilà. Pilate est donc obligé de leur céder. Il est un peu pris au piège. Même si c'est pas sérieux, une fois que l'affaire est sortie comme ça au grand jour, on peut dire à Rome, mais il y a quand même quelqu'un qui s'est prétendu roi, Pilate n'a rien fait. Donc là, Pilate, il a été piégé. Eh bien, Pilate va leur céder, mais ne se prive pas de se venger avec toute l'ironie dont il peut user. Vous voyez comment il retourne les choses. Crucifierai-je votre roi ? Il sait précisément que c'est ce qu'ils refusent. Ils ne veulent pas que Jésus soit leur roi. Crucifierai-je votre roi ? Et puisqu'il les titille dessus, ils l'ont accusé, les grands prêtres accusent Jésus de se présenter comme roi, très bien, roi des Juifs, dans ce cas-là, c'est votre roi, et eux, il sait qu'il va les faire réagir, et ils vont réagir en disant, nous n'avons pas d'autre roi que César. Très bien les petits, vous l'avez dit vous-même. Voilà, et 1-0 pour, enfin plutôt 2-1, parce qu'ils ont quand même marqué un point en obligeant Pilate à condamner Jésus, mais là, Pilate marque un point supplémentaire en les faisant dire ce qui normalement il devrait refuser de dire, c'est-à-dire nous n'avons d'autre roi que César, quand on sait le problème de la royauté dans l'Ancien Testament. Les grands prêtres, c'est eux qui sont chargés du culte du temple. Dans l'Ancien Testament, il y a eu une royauté en Israël, c'était très très compliqué. Il faut relire les livres des rois. Dieu qui a rappelé à Israël, tu n'auras pas d'autre roi que moi, il y avait. Voilà. Les Israélites ont voulu un roi, ça s'est très mal terminé. Et le haut sacerdoce a eu une très grande importance, justement parce qu'il n'y avait plus de roi. Donc, quand on relit l'histoire d'Israël, de la part des grands prêtres, c'est une sorte de reniement de ce qu'ils sont profondément. Et Pilate s'offre ce petit plaisir, je pense qu'il le sait très bien. Crucifierai-je votre roi? Nous n'avons d'autre roi que César. C'est tout ce que je voulais entendre. Voilà. Comme chez Saint Jean, les choses sont très fines. Voilà. Alors, dernière réflexion, Jésus sur la croix. On est vraiment dans un regard contemplatif. Voilà. Chez Saint Jean, il y a ce trait assez majestueux de Jésus, un peu comme chez Saint Matthieu. Jésus qui accomplit l'œuvre pour laquelle il est venu. Alors, deux points, dont le deuxième va être très développé. Le premier, ce sont les paroles de Jésus. Le deuxième, c'est la question du sang et de l'eau. Tout d'abord, la question de la parole de Jésus s'est achevée, s'est accomplie. J'ai évoqué déjà tout à l'heure Jésus sachant que tout était en train de s'accomplir. Et ces derniers mots de Jésus, s'est achevé, récapitulent toute l'œuvre. Le terme d'œuvre, c'est Jésus va en parler au chapitre 5, l'œuvre que le Père lui a demandé d'accomplir, eh bien, tout cela est récapitulé sur la croix. Il y a dans la mort de Jésus, au moment où Jésus meurt, une sorte de plénitude, une sorte de perfection. Jésus mène à son achèvement, à sa perfection, à sa plénitude, tout ce qu'il est venu accomplir. Il l'exprime à travers ces derniers mots, « c'est achevé ». En grec, « tétélestai ». C'est le passif du verbe « téléio ». Alors, ce terme « téléio », nous en avions l'équivalent au début du chapitre 13, je l'ai évoqué tout à l'heure. Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin, au sens de la plénitude, la perfection. Donc, ça s'ouvrait comme ça. Jésus les aima jusqu'au terme, jusqu'à la perfection, sur la croix. Qu'est-ce qu'il va dire? Ça y est, c'est la perfection, c'est la plénitude. Et on est dans la totalité de l'amour. Jésus a aimé jusqu'au bout. On appelle ça une inclusion. Entre le début du texte, il les aima jusqu'à la plénitude. Et une fois qu'il est crucifié, c'est la plénitude. Nous sommes dans la plénitude. Voilà. Et Jésus le disait au cours du repas, « Nul n'a de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Ce n'est pas de plus grand amour, il n'y a pas de plus grand. Pas de plus grand, c'est l'offrande parfaite de Jésus. Il n'y a pas d'amour plus grand que ce que Jésus est en train de vivre. Une offrande qui s'accomplit, comme je vous le disais tout à l'heure, non pas simplement dans la mort, le fait que Jésus va jusqu'au fait de mourir. Je vous l'ai déjà dit ici plusieurs fois, c'est ce qui me gêne dans le film, par exemple, de Mel Gibson. C'est une espèce d'excitation de la souffrance. Alors évidemment, on va dire qu'il a aimé jusque-là, c'est vrai. Il souffre encore plus, donc il aime encore plus. Mais ce n'est pas ça le secret du cœur de Jésus. Le secret du cœur de Jésus, c'est dans la souffrance, quand on souffre, en fait, on peut être dans un désespoir profond. Ce n'est pas la souffrance en tant que telle. Les gens qui souffrent atrocement, et qu'est-ce qui se passe dans leur âme, on ne le sait pas, on ne le saura jamais. Ce qui est extraordinaire chez Jésus, c'est qu'il se donne librement, il se donne dans l'amour, il se donne, rien ne l'arrête dans cet élan d'amour qui part du sein du Père et qui fait qu'il continue de se donner. C'est la liberté de Jésus qui est importante. C'est le don de Jésus. C'est ça la plénitude. C'est pas un amour, une souffrance excessive, même si elle est excessive, mais c'est un don libre dans l'amour que Jésus fait de lui-même. Le Père Simons, que j'ai souvent cité, le jésuite belge, l'exégète, spécialiste de Saint Jean, qui est une lecture pour moi assez qui peut paraître particulière, mais qui est très suggestive. Il met en résonance les textes et c'est souvent très très éclairant. Il fait remarquer une anomalie du texte. Jésus, inclinant la tête, remit l'esprit. L'ordre naturel a voulu l'inverse. Il expire, il fait le dernier souffle et au moment à ce moment-là, la tête tombe. Or là, la tête tombe, donc il est mort. et il remet l'esprit. Il y a donc comme un au-delà de la mort chez Jésus. C'est-à-dire qu'il y a une telle plénitude qu'on est dans cette surabondance. Alors, on peut le discuter, certains, voilà, des médecins diront, mais justement, le mouvement de la tête, etc. Je crois qu'il y a quelque chose d'assez juste. Hein, Jésus disait, le Fils donne l'esprit sans mesure. Alors, vous savez que le mot grec, surtout que exepnosen, hein, ne permet pas de mettre de majuscule. Il émit l'esprit. Le Père Simoun met une majuscule, ça veut dire il remit l'Esprit Saint. Et il y a cette idée que l'Esprit est celui en qui Jésus accomplit ce don. C'est dans la force de l'Esprit. Donc la plénitude qu'il y a dans la mort de Jésus, c'est le fait que Dieu donne l'Esprit sans mesure. Voilà. Cette au-delà, cette perfection, ce fait que dans une perfection, il y a encore quelque chose qui se donne, hein, qui ne peut être que de Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut excéder ce que nous appelons la perfection. Cet au-delà est manifesté par le sang et l'eau qui coulent du côté transpercé de Jésus. Alors ça, c'est un passage que nous connaissons bien, hein, que les visions de Jésus miséricorde ont vulgarisé, etc. Hein, l'eau et le sang qui coulent du côté de Jésus. Hein. Au départ de cet événement, au départ de ce fait, il y a un événement qui de soi n'a rien de remarquable. On est à la veille du Shabbat, les condamnés doivent être descendus de la croix parce qu'on ne pouvait pas toucher un cadavre le jour du Shabbat, on ne pouvait pas laisser un cadavre pendu à la croix ni le laisser, donc il fallait vite le détacher et l'ensevelir. D'autant plus que ce Shabbat était un grand jour, c'était le jour de la Pâque juive. Alors vous savez que ce supplice atroce de la croix fait que les crucifiés agonisaient pendant quelquefois plusieurs jours. Hein. Donc on devine l'horreur que c'était. Et pour en terminer avant le Shabbat, eh bien on brisait les tibias avec une grosse barre de fer ou je ne sais pas quoi, hein, le crurifragium, c'était connu hein, dans la littérature romaine. Hein, ils mouraient par asphyxie parce que normalement ils essayaient de s'appuyer sur les jambes. Et puis il souffrait tellement avec les clous, je ne sais pas quoi, avec les blessures qu'il retombait, puis il s'asphyxiait, il s'en relevait. Enfin, vous imaginez ce mouvement terrible. Quand, évidemment, c'est un sinistre travail, les soldats ne faisaient pas de gaieté de cœur, en voyant Jésus sans vie, ils se disent, si on peut éviter de donner un coup comme ça, c'est plus facile de plonger la lance. Donc, ils plongent la lance, et là, il sort du sang et de l'eau. Alors, il est difficile de donner une explication physiologique au phénomène de l'écoulement de l'eau. Pendant longtemps, j'ai dit, comme moi dans des commentaires, c'est l'eau qu'il y a au niveau de la plèvre ou je ne sais pas quoi. Et j'en ai parlé à une, ou c'est plutôt en en parlant qu'une médecin, Anissa, a dit, mais il n'y a pas du tout d'eau comme ça, c'est, d'un point de vue médical, c'est non. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que quelque chose de miraculeux? Est-ce que... voilà, il n'y a pas d'explication physiologique, phénomène miraculeux. En tout cas, Jean en atteste la réalité. Hein. Et Saint Jean fait. Il y a peut-être des médecins parmi nous.
Moi, je suis d'accord avec. C'est tout à fait possible sur le plan médical.
Ah, ben vous. Pour vous dire, j'avais vu cette médecin. Alors elle disait non, et j'avais vu un article qui laissait entendre qui semblait confirmer, mais.
Alors, c'est pas physiologique, ça c'est vrai. Mais là, on n'est plus à la physiologie, on est à la pathologie. Donc, effectivement, c'est quand même possible parce qu'il y a eu une suffocation, donc il y a eu un œdème du poumon.
Ah, c'est un œdème quand il y a un phénomène d'œdème du poumon.
Et il y a un autre. Non, je sais pas ce
que. Mais il faudrait que je.
Il y a un autre événement qui.
Vous êtes aussi dans le monde.
Il y a aussi de l'eau dans l'intestin, dans l'estomac.
Ah, non, pas du tout pareil. C'est de l'eau qui s'accumule dans la plaie quand il y a une.
D'accord. D'accord. Bon, mais je vais.
Il y a un autre phénomène qui. Moi, je trouve très proche. Je suis surpris qu'on ne le remette pas plus en évidence, c'est l'accouchement.
L'accouchement.
Eh bien, l'accouchement, c'est un.
Ah oui, alors ça.
Mais c'est une d'eau et de sang qui est très similaire.
D'accord. Mais ça, c'est là où vous êtes dans la lecture de quelque chose. Là, on essaye de rendre compte d'un événement historique. Et est-ce qu'il est plausible historiquement? Ensuite, la lecture. La lecture, d'une certaine manière, elle existe quand les pères de l'Église, vous le verrez sur Saint Augustin, qui parle de la naissance de l'Église, du côté du Christ. Ah oui, là, on peut faire le lien. Mais d'un point de vue médical, moi, ça m'intéresse. Ben, c'est bien, ça remet en cause. Voilà. Donc, c'est en parlant comme ça que je vois les médecins réagir et ça me. Voilà. En tout cas, en effet, pas d'un point de vue physiologique, mais au niveau pathologique, c'est tout à fait plausible. Je vous remercie pour cette précision. Hein, je crois que je précise les choses. En tout cas, Saint Jean fait aussitôt une lecture théologique. Celui qui a vu rend témoignage, alors ça il insiste beaucoup sur la vérité des choses, mais témoignage dans sa bouche, ça ne veut pas dire uniquement il a vu la chose, mais le témoignage veut dire il y a quelque chose d'assez important pour que ça vaille un témoignage. Voilà. De quoi va-t-il témoigner? Et c'est ça qu'on va voir juste après. Son témoignage est véritable. Celui-là sait qu'il dit vrai pour que vous aussi vous croyez. Vous voyez, quand même quelque chose de très très fort. Il y a un événement à considérer, à prendre en compte, qui nous dit quelque chose. Saint Jean pointe en disant, attention, il y a quelque chose à comprendre, au-delà de la factualité. Voilà. Premièrement, donc il va donner deux références bibliques. Première référence, deux prophéties. Première référence, c'est l'agneau pascal. Saint Jean avait fait une discrète allusion en rapportant la ligature, j'en ai parlé plusieurs fois. Jésus qui meurt au moment où il immole les agneaux au temple. Voilà. Le fait que les soldats ne brisent pas les os de Jésus est vu comme une réalisation de la prescription de l'Exode concernant l'agneau pascal. Aucun os ne sera brisé. Vous savez, les Hébreux, au moment de quitter l'Égypte, vous mangerez rapidement l'agneau, aucun os ne lui sera brisé. Signe de cette rapidité, c'est le moment du salut. Voilà. Puis, c'est l'agneau de Dieu, donc il y a ce respect. Voilà. Jésus est ce nouvel agneau de Dieu. Donc, le parallèle avec l'agneau, ça nous le connaissons, il en a été question déjà au début de l'évangile, dans la bouche de Jean, il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voilà. Puis j'en avais parlé, je crois, il y a un an ou deux, pour ceux qui étaient déjà là, à propos du rituel pascal. Deuxième citation, plus étonnante, tirée du prophète Zacharie. Ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. D'accord, on l'a transpercé. Quel est l'intérêt de le regarder? Voilà. C'est la reprise, ce passage du livre de Zacharie, est la reprise d'un thème connu dans l'Ancien Testament, qu'on appelle le thème du juste transpercé. Qu'est-ce que c'est que l'histoire du juste transpercé? Alors c'est un thème qui apparaît avec la mort de Josias à Megiddo. Josias, c'est un des seuls rois de Juda qui était un roi juste, qui a vraiment fait la volonté de Dieu, on peut dire un saint, comme Ézéchias, mais de façon encore plus forte. Il a vraiment retrouvé la loi, la Torah de Moïse, il l'a mise en œuvre, il a redonné au culte du temple toute son importance, la célébration de la Pâque, il accomplissait la volonté du Seigneur, voilà. Il est tué de façon idiote à Megiddo par le pharaon Nécao qui allait se battre pour aider les Assyriens. Pourquoi meurt-il? Alors que c'était un roi qui était considéré comme juste, je vous donne la citation. Alors, le livre des Chroniques va se poser la question, c'est parce que il n'a pas écouté la voix de Dieu. Quand on lit le récit, il est dit, il s'est présenté devant le pharaon Nécao, mais Dieu avait dit à Josias de ne pas faire la guerre. Josias s'est quand même présenté, donc est-ce que c'est ça? C'est l'idée de la rétribution immédiate. Si il a été tué de façon injuste, c'est qu'il avait fait du mal. Vous connaissez cette logique. S'il m'arrive des malheurs, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? S'il arrive des malheurs, c'est qu'il y a bien un truc qui ne va pas. C'est toute l'histoire du livre de Job. Ça vous dit quelque chose? Job qui est sur son tas de fumier, tous les copains ils viennent, ils sont pieux, ils connaissent bien La théorie classique de la Bible, ils redisent, c'est très étonnant, des passages de la Bible, mais sur un mode qui va être contesté par Job. Et Dieu va donner raison à Job. C'est-à-dire que dans la Bible, il y a des passages, mais qui sont remis en cause. L'idée de la rétribution immédiate. L'homme qui fait des péchés, il lui arrive des malheurs. Cette vision va être contestée. On le voit chez Saint Jean au chapitre 9, on en avait parlé. Cet homme est aveugle. On voit les apôtres qui vont vers Jésus. Attends, il est aveugle. Je pense que le gars, il va bien entendre. Mais c'est parce qu'il a péché qu'il est arrivé des malheurs comme ça. Jésus, non, pas du tout. Pas plus que vous. Mais c'est pour que soit manifestée la gloire de Dieu. Montrer la puissance de guérison. Mais c'est un problème beaucoup plus complexe. Alors, donc, cette piste est mauvaise. Si Josias a été transpercé, ce n'est pas qu'il est pécheur. Le thème va être repris en Isaïe 53, dans le quatrième poème du serviteur, que vous connaissez bien. Il n'avait plus figure humaine, nous considérions qu'il était condamné, justement, peut-être tellement il était défiguré à cause des souffrances qu'on lui avait infligées. Mais en fait, on le considérait comme un criminel, mais en fait, il a été transpercé, donc transpercé à cause de nos crimes. Dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Par sa justice, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Et en gros, c'est l'homme qui prend sur lui la violence du monde, sans rendre la violence, mais en donnant sa vie. Et Zacharie va approfondir cette voie ouverte par le Deutéro-Isaïe, ce qu'on appelle le Deutéro-Isaïe, c'est Isaïe 40 à 55, la deuxième partie du livre d'Isaïe, où il y a les chants du serviteur, Isaïe 53. Zacharie va approfondir cette voie en présentant la mort du juste, même non seulement comme la mort de quelqu'un qui était juste et qui a été condamné en raison de nos maux pour nous en libérer, mais non seulement ça, mais sa mort devient une source de grâce. À l'occasion de sa mort, Dieu répandra sur son peuple un esprit de grâce et de supplication. Ils regarderont vers moi, donc Dieu lui-même, parce que c'est lui qui a été transpercé. Ils regarderont vers moi celui qu'ils ont transpercé. Qu'est-ce que ça veut dire? Regarder celui que j'ai transpercé, c'est-à-dire je reconnais enfin le crime que j'ai commis. Il y aura un acte de vérité. Je reconnais, c'est moi qui l'ai transpercé. Et pourtant, je vois que lui, il donne sa vie pour moi. Il y a une source de grâce, un esprit de grâce et de supplication, comme le dit Zacharie. Ils reconnaissent par la foi le Messie souffrant, dans le Messie souffrant plutôt, celui qui porte le péché des hommes, pour leur offrir en retour l'abondante grâce du salut. Et c'est cela que fait Jean au pied de la croix. C'est l'aboutissement de cette longue réflexion biblique, depuis le livre des rois, en passant par les chroniques, Isaïe 53 et finalement Zacharie. On pourra revenir dessus, j'ai terminé dans une minute, si ce n'est pas très clair, vous dites question, je n'ai pas compris. Voilà. Zacharie d'ailleurs poursuit sa prophétie en annonçant que ce jour-là, il y aura une fontaine ouverte pour David et pour les habitants de Jérusalem pour laver péché et souillure. Ça, c'est très intéressant dans la Bible. Quand vous avez, dans les évangiles, il faut savoir que les évangiles sont écrits par des juifs, Saint Jean, et les juifs ont une manière qui est très belle. Ils citent un petit passage, mais il y a tout le reste qui vient avec. Vous voyez, par exemple, si je vous dis, nous nous sommes mis à chanter, j'ai descendu dans mon jardin, ferme les guillemets, et vous imaginez bien que j'ai descendu dans mon jardin pour, y chercher, y cueillir du romarin. Tout le monde qui a été à la petite école, on se souvient, pour cueillir du romarin, il y a toute la chanson qui va venir avec. Évidemment, le but, c'est pas de chanter uniquement « J'ai descendu dans mon jardin, j'ai descendu dans mon jardin ». Il y a tout le texte qui vient avec. Voilà. Ben, c'est pareil. Quand ils citent « Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé », le juif qui connaît bien son écriture, qui lit Saint Jean, il dit « Ben oui ». Et regardez celui qu'ils ont transpercé, ce jeu, et dans sa mémoire, il y a tout le reste qui vient avec. Ce jour-là, il y aura une fontaine ouverte pour David et pour les habitants de Jérusalem pour laver péché et souillure. Donc il y aura une fontaine, une source qui va couler. C'est bien ce que Saint Jean est en train de voir, avec l'eau qui coule. L'eau qui coule du côté du Christ, même si la référence n'est pas explicite. Et Jésus avait de fait annoncé qu'il donnerait une eau vive. Je l'avais évoqué à propos de la Samaritaine, en envoyant déjà à Jean chapitre 7, « Qu'il vienne à moi celui qui croit en moi, selon les mots de l'Écriture, de son sein couleront un fleuve d'eau vive. » Promesse à la Samaritaine, « Qui boira de l'eau que je lui donnerai, deviendra en lui l'eau que je lui donnerai, deviendra en lui source d'eau jaillissante pour la vie éternelle. » L'eau, la citation n'est pas bien faite, mais voilà. Donc c'est cette eau qui vient du côté du Christ et qui est pour nous eau jaillissante pour la vie éternelle. Donc on regarde celui qui est pour nous source de grâce. Référence aussi à la source du côté du temple, qui apporte la vie là où était la mort. Il faut lire Ézéchiel 47. Enfin, dernier point sur la question du sang versé, qui atteste la réalité du sacrifice dans le rituel de la Pâque. C'est un élément déterminant, parce que quand il y a le sang, ça veut dire qu'il est question de vie et de mort. Les pactes de sang, toutes les histoires du sang, le sang de l'alliance entre Dieu et le peuple, Exode 24, c'est avec le sang que l'alliance est établie, c'est aussi par le sang que l'agneau le sang de l'agneau qu'Israël est sauvé de l'ange exterminateur. Vous vous souvenez du passage de l'Exode. Voilà. Hein, pour Jean, le sang est instrument de propitiation. Hein, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Voilà, donc je termine. Hein, on l'a bien vu, chez saint Jean, chaque événement, chaque acte a une signification théologique. Hein, et là, on voit toute l'importance du regard du disciple, le disciple que Jésus aimait. Hein, il se tenait au pied de la croix, il a vu ce qui se passait. Il a vu d'un regard de foi, hein, conduisant le lecteur à croire lui aussi. D'ailleurs, la conclusion, c'est « Je vous ai écrit ça pour que vous croyiez et qu'en croyant, vous ayez la vie. » Et ce regard sera un enjeu évidemment fondamental pour la résurrection. Voilà. Il nous reste les complices à écart, c'est ça? Je crois. Hein. Donc, pour terminer dans 5 minutes, pour être un peu avant les complices, est-ce qu'il reste une ou deux questions? Oui. Mais j'y pensais, vous voyez, tout à fait. Et justement, celui que j'ai transpercé, c'est-à-dire je l'ai transpercé. Quand un enfant a fait un gros dégât dans la cuisine, la maman va le conduire en disant « Regarde !» Et le gamin, il va regarder ailleurs. Et il y aura une victoire quand l'enfant enfin regardera les dégâts où, je ne sais pas, il a laissé son bol plein de chocolat et plein de miettes, et il devait ranger, il n'a pas rangé. Viens regarder. Ouais. Regarder, alors que nous détournons, on ne veut pas regarder. On ne veut pas regarder. Qu'est-ce que c'est que le serpent de bronze? Les serpents qui brûlent, c'est la morsure du péché. Je me cache par rapport à mon péché. Là, on va nommer le péché. On va le voir pour en être libéré. Mais si on ne nomme pas le mal, on ne peut pas en être libéré. Donc, en Jésus, nous voyons notre propre cruauté, parce que c'est nous qui avons cloué Jésus. Mais la grande nouveauté, c'est que Jésus, au lieu d'en faire un signe de condamnation ou d'accusation, il en fait un signe de grâce. Il fera naître un esprit de supplication. « Seigneur, je sais que tu peux me sauver. » J'ai mis le petit passage de saint Augustin, hein, qui reprend le thème de la naissance de l'Église. Hein, donc je pense qu'il a aussi, même s'il ne le développe pas, hein, l'eau hein, de fait pour l'accouchement, en effet. Ça va? Pas d'autres questions? Pas d'autres... Eh bien, écoutez, bonne relecture. Le but, quand même, c'est de lire saint Jean. Donc, la prochaine et dernière rencontre, au mois de mai,